carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Daniel Piston.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Académie. Vous êtes musicologue, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne et directeur de l'Observatoire musical français. 2011, l'année Liszt nous conduit à vous pencher sur l'imaginaire listien. L'imaginaire musical de Franz Liszt, compositeur et interprète, et aussi sa réception dans notre société contemporaine. Un artiste est toujours le miroir de la société dans laquelle il vit, et sa réception aussi dépend du contexte culturel du moment. Daniel Piston, comment dire Franz Liszt dans la France contemporaine? Quelles sont les dimensions de son imaginaire musical et que peut-on évoquer de Liszt dans toute notre société? Pas forcément la critique de la presse, mais tout ce qui emplit notre société de Liszt.
Notre vision listienne est certainement dirigée par notre conception actuelle du romantisme. Il est fortement lié à ce mouvement esthétique et on pourrait dire qu'il est victime de notre perception actuelle du romantisme, qui n'est pas toujours positive. Vous aurez sans doute lu dans les journaux qu'on peut évoquer un romantisme à l'eau de rose, un romantisme fleur bleue. Peut-être ce type de notation tend-il à s'estomper, mais il est toujours présent. C'est dire que, à la fois, des compositeurs comme Schumann, comme Chopin, comme Liszt sont bien présents dans notre société, mais qu'il y a aussi un très léger mouvement de retrait dont souffre Liszt, et dont Liszt souffre davantage encore que Chopin. Et c'est une question qu'on pourrait se poser.
Ah oui, pourquoi donc?
Pourquoi donc? Eh bien parce que chez Chopin, tout est parfait. Je vous mets au défi d'enlever une mesure dans une partition de Chopin sans que cette musique ne s'effondre. Chez Liszt, parce que le discours est beaucoup plus fragmenté, parce que Liszt est un homme de théâtre, parce que sa musique est une musique animée par beaucoup d'idées. C'est une musique, dirait-on, beaucoup moins pure que la musique parfaite d'un Mozart ou d'un Chopin. La musique de Liszt a toujours eu beaucoup moins de succès au XXe siècle que la musique de Chopin. Ce qui n'était pas vrai au XIXe, parce que Liszt était un musicien d'estrade. En fait, il était célébré comme virtuose, alors qu'il n'a pas écrit que pour le piano. À partir de la fin des années 40, il est en Allemagne, il dirige des œuvres d'orchestre, il ne faut jamais oublier les services qu'il a rendus à Berlioz dans la découverte de son œuvre. Mais oui, non seulement, mais dans la découverte de l'œuvre orchestrale de Berlioz en Allemagne où Berlioz était plus apprécié qu'en France. Mais revenons à Liszt. Donc il y a déjà le type de discours pianistique. Je suis toujours navrée quand j'entends des pianistes célèbres qui me disent « J'ai fait beaucoup de concerts Liszt, mais je crois que je vais revenir à Chopin. » Mes concerts Liszt sont moins fréquentés que les concerts Chopin. Alors, c'est la question. Pourquoi Liszt serait-il moins en faveur que Chopin dans notre société actuelle? Certes, en 2011, ça ne se voit pas, parce que les enregistrements ont été très nombreux,
oui,
les concerts...
Son année a été bien fêtée.
Oui, les concerts, les événements, extrêmement nombreux.
Les colloques, vous en sortez.
Les colloques, nous sortons de 3 colloques universitaires consacrés en France à Franz Liszt. Donc, 2011 aura été une bonne année, Franz Liszt. Mais je reviens à la perception que nous avons de ce compositeur. D'abord, il faut voir que ce compositeur est un peu un déraciné qui a vécu sur plusieurs pays. Certes, il a vécu la fin d'adolescence et la jeunesse en France, mais pas seulement. Il s'est enfui avec Madame Dagout en Suisse. Il s'est enfui. Et là, il y a le problème aussi. Le scandale de Liszt qui part avec une femme mariée de laquelle il aura 3 enfants. Ensuite, il vit ce que lui-même appellera une vie trifurquée, beaucoup plus tard, entre l'Allemagne, l'Italie et son pays natal, la Hongrie. C'est-à-dire qu'il naît, si vous voulez, il est partout peut-être, mais vraiment nulle part. Et je pense que voilà encore la différence avec Chopin, qui n'est jamais devenu français, mais qui est revendiqué très fortement par la Pologne et par la France. En Allemagne, Liszt a eu le malheur de plaire à Hitler. Et c'est encore un problème, si vous voulez, aujourd'hui, dans la perception allemande de Liszt. Alors certes, il est un héros en Hongrie. Et les poèmes, hein, qui, à la manière du Tirse de Baudelaire, chantent sa louange, sont très nombreux dans ce pays. Mais on remarque aussi qu'ils sont rarement signés au XXe siècle de grands auteurs hongrois. Donc vous voyez, il y a tout à la fois une célébration de Liszt, mais aussi un petit retrait. Et qui est dû, je le disais, à la perception qu'on a actuellement du romantisme. Parce que certes, il entre dans nos visions du romantisme si on parle du caractère allemand, et vous savez que Liszt parlait très bien le français et l'allemand, hein, qu'il a été bien lié à l'Allemagne. Certes, il exalte la nature, et ça nous plaît dans notre conception du romantisme. Il exalte l'amour.
Les figures féminines.
Les figures féminines. Mais il y a chez lui d'autres composantes qui entrent mal actuellement dans la vision du romantisme.
C'est la religion.
Mais oui, exactement. Je crois qu'on revient peu à peu à cette importance du sacré dans l'expression. Mais le XXe siècle était peu ouvert à cette dimension sacrée du romantisme. Et puis, ce qui lui colle à la peau aussi, c'est la virtuosité et la dimension héroïque. Or, on sait que la virtuosité, elle n'a pas bonne presse.
À propos de virtuosité, nous allons écouter le grand galop chromatique de Franz Liszt. Et pourquoi avez-vous choisi cet air-là ?
Parce que Liszt l'interprétait très souvent à la fin de ses concerts. En fait, c'est une pièce idéale pour clore une démonstration de virtuosité, comme vous allez pouvoir en juger.
C'est Xifra que vous avez entendu parce que c'est un des interprètes qui est resté fidèle et lié au nom de Liszt, même si, bien sûr, Xifra a disparu.
Tout à fait. Il reste en France, si vous regardez par exemple les collections présentes au département de l'audiovisuel de la BNF, hein, ce qui est accessible à tout un chacun dans les locaux de la Bibliothèque nationale, vous verrez que c'est de Xifra que l'on possède actuellement le plus grand nombre d'enregistrements listiens dans cet établissement. Il y a une autre pianiste française dont il faudrait parler, c'est Franz Klida. Mais Franz Klida, si elle aussi, elle a fondé son nom sur l'interprétation de l'œuvre de Liszt, est quand même moins connue. Et il en est un troisième, qui actuellement boucle une centaine d'enregistrements, une centaine de CD consacré à Liszt, c'est-à-dire l'intégralité de l'œuvre pour piano, en allant même chercher le dernier des manuscrits. C'est Leslie Howard. Mais malheureusement, la BNF ne possède même pas l'intégralité des enregistrements, si vous voulez, qui sont les siens. Et c'est aussi un symptôme, ça. C'est un symptôme qui montre bien qu'alors qu'on se précipite sur les enregistrements de Chopin, on n'est pas toujours à l'affût des enregistrements listiens, fût-ce par le plus grand musicologue-interprète qu'est Leslie Howard. Vous voyez, tout ça est très symptomatique de la position de l'image qu'on se fait de Liszt.
Il était très annonciateur d'une musique beaucoup plus moderne que Chopin. Et peut-être était-ce ça qui fait que Liszt est moins apprécié dans le cadre du romantisme. C'est compliqué. Où est sa place réelle, finalement ?
Où est sa place réelle ? Il a effectivement écrit dans tous les genres, contrairement à Chopin, qui est très étroitement lié au piano. Dans tous les genres, il y a de très grandes œuvres religieuses chez Liszt. Il y a même des mélodies sur texte français. Hein. Vous voyez « Au quand je dors » de Victor Hugo, par exemple, qui est tout à fait réussi. Il y a, bon, le domaine de l'opéra à mettre entre parenthèses, puisque Don Sanche est
c'est
un...
C'est pas vrai,
oui,
peut-être.
Oui, sans doute, c'est un ouvrage de jeunesse. Liszt a aussi beaucoup écrit dans le domaine littéraire.
Oui, il a une postérité littéraire incroyable.
Mais oui, certes, peut-être pas toujours tout seul. Il y avait Madame Dagoû, hein, et puis, lorsqu'il était en Allemagne, il y avait sa princesse, hein, oui. De Sayn-Wittgenstein. Mais il reste une postérité littéraire de Liszt importante.
Sa correspondance est très nombreuse.
Vraiment, on n'en a pas encore fait le tour. Hein. Vous savez que toute la correspondance de Liszt n'est pas encore éditée. On s'en occupe. Hein, mais il a immensément écrit. Bon, il faut dire aussi qu'il a vécu beaucoup plus longtemps que Chopin. Hein. Pensez que Chopin est mort en 1849 et Liszt dans la seconde partie des années 80. Hein. C'est-à-dire qu'il a, il a eu un cercle de connaissances et donc des échanges épistolaires très nombreux.
Et il était très intellectuel.
Oui, alors qu'il avait commencé comme musicien d'estrade, hein, un pianiste virtuose très très jeune. Il a fréquenté incontestablement des milieux très savants, la comtesse Dagoû, et puis ensuite la princesse de Sayn-Wittgenstein, qui était une des personnes les plus cultivées de son époque. Donc effectivement, il y a chez Liszt une soif de littérature, de culture tout à fait impressionnante.
Et il avait une idéologie peut-être qui était précise.
Oui, quand on regarde attentivement ses écrits, on voit que c'est un mélange hein, de saint-simonisme, des théories de Lamennais. Disons qu'il y a aussi dans le sillage de George Sand, il ne faut pas oublier qu'il a été proche de George Sand, un intérêt pour la dimension sociale, ça c'est sûr, hein, chez Liszt. D'ailleurs, il l'a conservé tout au long de sa vie. Mais tout à l'heure, vous faisiez allusion à quelque chose qui est très important aussi, c'est le modernisme. Et je pense que si la virtuosité lui fait du tort, le modernisme le rapproche de nos dernières décennies. Alors, venons peut-être encore sur cet aspect listien qui n'entre pas tout à fait dans les cadres romantiques pour montrer aussi que aux marges, il en est quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le succès des rhapsodies hongroises de Liszt, et puis le succès d'œuvres assez triomphantes, au caractère héroïque, parce que cette dimension héroïque, elle est vraiment dans son écriture d'instrumentiste. Il ne faut pas oublier que chez Liszt, même quand il écrit pour l'orchestre, l'instrumentiste est toujours présent. Liszt est avant tout un pianiste, avant d'être un orchestrateur ou un chef d'orchestre. Et cette dimension du piano, en quelque sorte du piano-orchestre, avec beaucoup d'octaves, hein, avec une habileté digitale tout à fait extraordinaire, une force d'attaque du clavier qui vient du bras, donc qui est tout à fait différente aussi du mécanisme de Chopin, si vous voulez, plus moderne en un sens, c'est vrai. Cette dimension héroïque, on la sent bien à travers les rhapsodies hongroises, mais on la vérifie bien aussi à travers les préludes. Et peut-être dans la fin de l'œuvre qui présente justement cette dimension la plus héroïque.
On va écouter tout de suite les préludes de Franz Liszt, qui est un enregistrement de 1928, qui vient de ressortir dernièrement, ce qui montre un renouveau dans l'intérêt pour Liszt.
Thank you.
Daniel Piston, revenons au modernisme de Liszt.
C'est effectivement une dimension importante. Il est certain que Liszt est encore plus inventif, encore plus moderne que Wagner, par exemple. Wagner qui, vous le savez, était son gendre. Si on analyse le détail de son écriture, le détail de l'écriture d'ailleurs de ces deux compositeurs, on verra que jamais Wagner n'est allé aussi loin que Liszt. Déjà, dans la période de maturité listienne, il y a des formes d'écriture, par exemple, des quintavides, si vous voulez, des artifices de dépouillement dont on n'avait pas du tout l'habitude, des modes, des successions mélodiques un peu étranges. Mais le comble, ce sont les dernières œuvres de Liszt. Et jamais peut-être qu'à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, on ne s'est autant intéressé aux ultimes œuvres de Liszt. Ces œuvres d'ailleurs dont il disait lui-même qu'elles étaient sans doute conçues pour la postérité.
Oui, c'était le dernier Liszt et pour l'avenir.
C'est ça. Des œuvres comme la Bagatelle sans tonalité, qui n'est peut-être pas vraiment sans tonalité, mais qui est tout à fait étrange pour le début des années 1880. D'autres œuvres aussi pour orchestre, hein, qui témoignent du fait que Liszt, pianiste d'estrade, a quand même toujours été un chercheur dans l'écriture. Et ça, c'est une dimension, si vous voulez, qu'on reconnaît à Liszt dans notre début de XXIe siècle, d'une façon tout à fait importante. Nous aurons par exemple en novembre à la Sorbonne une thèse qui ne porte que sur 60 mesures de ses ultimes œuvres de Liszt. En l'occurrence, les extrêmes fins de certaines ultimes œuvres pour piano. C'est dire qu'on va dans le détail.
Oui, c'était un passeur.
C'est un passeur, absolument. C'est un passeur, c'est un compositeur incontournable, donc qu'on pourrait considérer comme le premier, le plus grand des romantiques, et dont l'image, je vous l'ai dit, est un peu brouillée, un peu entravée, mais n'exagérons rien. Toutes les statistiques de 1913 jusqu'à la fin du XXe le classent, d'un point de vue quantitatif, à la 9e ou 10e place parmi les compositeurs interprétés dans les concerts, sur les radios ou au disque. C'est une place tout à fait honorable. Mais évidemment, Bach, Beethoven, Mozart sont parmi les premiers et Chopin n'est pas loin.
Michel Philippot a interprété à la manière de Liszt en 1979 12 paraphrases, variations sur le thème d'Erik Satie. Donc nous faisons un doux mélange entre Erik Satie et Liszt et on entend les traits les plus caractéristiques de Liszt. Écoutons.
Thank you.
Daniel Piston, ce morceau musical s'appelait une Sospirino. Pourquoi donc ?
Parce que partant de la première gymnopédie de Satie, dont vous avez entendu la mélodie au début de ces 2 minutes de musique, il écrit à la façon de Un Sospiro de Liszt. Et il choisit ce titre parce que cette partition a été écrite à la demande du Brésil, le Brésil où Filippo a enseigné. Donc c'est pour ses étudiants brésiliens qu'il a conçu cette « à la manière d'eux ». Et comme vous l'avez dit fort justement, il y utilise les moyens techniques les plus caractéristiques de Liszt, réussissant à passer en douceur du début de la mélodie de cette gymnopédie de Satie à l'écriture de « Un Sospiro », œuvre très célèbre aussi de Franz Liszt.
Est-ce que vous pourriez nous donner les caractéristiques de l'œuvre de Franz Liszt en reprenant le déroulement de ce morceau de musique ?
Bien sûr. Alors, tout d'abord, ce qu'on appelle la mélodie accompagnée, c'est-à-dire à la main droite, une phrase mélodique simple, soutenue par des arpèges de la main gauche. Ça, c'est l'écriture caractéristique du nocturne, de toutes les pièces relativement lentes à l'époque romantique. Donc, début très listien, pas très loin de l'écriture de Field ou de Chopin. À la reprise du thème, jeu en octave. Liszt aime beaucoup les octaves, ça entre dans l'optique de la virtuosité. Et puis, vous allez voir arriver le chant à la main gauche. Ce chant qui résonne dans les basses, c'est aussi quelque chose de très romantique et de bien exploité par Franz Liszt. Et puis, vers la fin de l'œuvre, tout à coup, une surprise qui fait allusion donc à ce modernisme de Franz Liszt, à cet inattendu que l'on trouve dans quelques œuvres. Et il faut vraiment rendre hommage à Michel Filippo, qui était un grand virtuose de l'écriture et qui sait, à travers peu de mesures, rendre compte de ce qui est le plus caractéristique de l'écriture de Liszt.
Est-ce que vous pensez que Liszt a réellement des héritiers au XXIe siècle ? Je parle de compositeurs.
Je me souviens, dans les années 80, dans les débuts du postmodernisme, en Italie, il y avait plusieurs pianistes qui improvisaient ou qui même composaient à la manière de Liszt. Pourquoi plutôt à la manière de Liszt et pas à la manière de Chopin ? Eh bien parce qu'il y a cette dimension d'estrade, cette dimension d'effet, beaucoup plus chez Liszt que chez Chopin. Alors, Liszt a-t-il des héritiers aujourd'hui ? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile parce que il est de partout et de nulle part, il écrit dans tous les genres, et qu'il est très difficile d'écrire à la manière de Liszt en sortant de cette virtuosité très caractéristique. Vous voyez, donc, c'est une œuvre trop marquée dans l'essentiel de sa production par le romantisme, et puis ce qu'on peut appeler modernisme pour les années 70 ou 80, il est évident qu'aujourd'hui c'est totalement dépassé, si vous voulez. Donc, écrire à la manière de Liszt, c'est forcément écrire à la façon du XIXe siècle. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est comment Liszt est présent dans notre littérature, par exemple. On avait fait une enquête sur 150 romans à sujet musical dans les années 90, d'où il résultait que Liszt, contrairement à Chopin, n'était pas très présent. Si on va maintenant au début du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Eh bien, on va remarquer que si certains titres font allusion à Liszt, et je pense à un roman noir d'Olivier Pouriol qui s'appelle Méphistovals, en 2001. Mais cette Méphistovals, ça se déroule au concours Chopin. Et un pianiste, au rage, veut interpréter du Liszt dans le concours Chopin. Tout ça se finit d'ailleurs très mal par un meurtre. Autre œuvre encore plus récente qui évoquerait le personnage de Liszt, c'est La Vestale, d'Ariel Buteau. Ariel Buteau, qui est bien connu des auditeurs de France Musique, hein, qui fait partie de l'équipe de France Musique, mais cette Vestale, c'est le roman de Pauline Viardot, c'est-à-dire que Liszt n'y occupe qu'une position assez secondaire. Et c'est toujours cette position assez secondaire qu'on remarquerait, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'ouvrages très récents évoquent la musique de Liszt. Je pense à La Douane de mer de Jean d'Ormesson, par exemple. Je pense à une autobiographie comme Bouquinet d'Annie François. Mais c'est toujours assez fugitif. Alors que Mozart, alors que Bach, alors que Chopin sollicitent beaucoup l'imaginaire de nos romanciers, Liszt infiniment moins. Mais peut-être aussi parce que sa vie est très très complexe et que si on se situe à l'époque française de Marie Dagout, on arrive tout de suite à la société de George Sand, Chopin, Liszt, vous voyez, et on retombe dans un cénacle romantique où Liszt finalement n'a qu'une petite partie à jouer. C'est ce qui fait que peut-être il faudrait encourager nos littérateurs à prendre enfin Franz Liszt en exemple unique.
Merci beaucoup, Daniel Piston.
Merci à vous.